François Gagnon, bonjour.
Bonjour, Paul Raphaël. Comment ça va?
Ça va très bien toi-même.
Excellent.
Bon,
excellent.
Commençons rapidement parce que je sais que tu aimes beaucoup quand les auditeurs t'écrivent
pour
te poser des questions. Ton courriel?
Beaucoup de courriels encore une fois cette semaine. Là, ça touche pas mal l'impôt parce que j'ai comme l'impression que les gens commencent à se préparer pour la fin d'année. Là.
Ben oui, ça, puis les cotisations réelles.
Oui, cotisations réelles, etc. Peut-être des prises de retraite également, comme notre premier cas là, d'une personne qui... merci à ceux qui nous écrivent de l'extérieur du Québec, qui nous écoutent via le FM 93. C'est le cas de Rodolphe Cyr d'Edmundston, qui a 61 ans, 41 ans de service donc au CN au Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas de dette. Il y a quand même passablement d'argent. Il y a plus d'un million de d'argent à investir. Et il est très nerveux depuis que M. Trump est là. Donc, il s'est placé avec un très, très faible taux d'intérêt. Son CELI est plein, son REER est plein. Il va avoir une pension de retraite annuellement de 60 000 $. Puis là, il veut savoir quoi faire. Il n'y a pas grand-chose à faire, mon cher Rodolphe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'échappatoires fiscaux chez vous au Nouveau-Brunswick. Il y a quand même le capital de risque de travailleurs là, qui existe, ce qu'on appelle les fonds d'investissement de travailleurs, les fameux FIT à l'extérieur du Québec. C'est l'équivalent de la FTQ ou encore de la CSN chez nous. Là. Sauf que vous pouvez investir jusqu'à 10 000 $ et vous allez obtenir 20% de crédit d'impôt. C'est admissible un REER, mais comme votre REER est plein, ben vous pourrez pas le mettre dans votre REER. Donc, vous n'aurez pas une déduction supplémentaire de 15%. Peut-être pour augmenter votre rendement, peut-être prêter de l'argent à votre famille. Si vous avez des enfants, hein, ça pourrait être une bonne chose. À vos enfants, en plus, même si vous leur prêtez à 3%, c'est pas imposable parce que vous prêtez à votre enfant. Par contre, si vous prêtez à votre cousin, là, ça va devenir un rendement. Ça deviendra imposable. Il y a peut-être une façon de ce côté-là de pouvoir contourner, être capable de faire des sous sans trop nécessairement de payer l'impôt. Mais la meilleur conseil que je pourrais y donner, là, ça serait bien sûr de consulter un bon fiscaliste, particulièrement au Nouveau-Brunswick, là, parce que les règles sont différentes de chez nous au Québec, et également un bon planificateur financier, parce qu'avec plus d'un million de dollars à 61 ans, disons qu'il va avoir une belle retraite.
Ensuite, il y a Steve qui t'avait écrit concernant les droits de cotisation des REER. Quand tu n'utilises pas complètement tes droits de cotisation, donc c'est reporté, c'est là-dessus que porte la question de Steve.
Oui, effectivement, mais là, il y a une comme double question là-dedans, là, parce que lui, il prétend qu'il y a eu 30 000... selon son dernier avis, il y a 30 000 $ là, d'avis de cotisation là, qui pourrait utiliser... comment ça fonctionne au niveau des déductions d'impôts? Si je cotise durant l'année, crédit d'impôt de 15% au Québec, 15% au fédéral, ça dépend bien sûr, ça, dépendamment de votre salaire. Là, plus votre salaire va être élevé, plus le crédit d'impôt va être élevé aussi. Est-ce qu'il y a un crédit d'impôt? Peut-être une déduction si on rapporte à une autre année? Oui, effectivement. Divisons la question en deux très rapidement. Là, si vous n'utilisez pas vos droits de REER de 30 000 $ l'année prochaine, ça sera 30 000 $ plus 18% de votre revenu net. Alors, jusqu'à une concurrence d'un maximum de 21 000. Sinon, si vous utilisez, par exemple, 10 000 $ d'investissement dans votre REER cette année et que, par contre, vous prévoyez que vous allez avoir un petit coup d'argent supplémentaire l'année prochaine, vous en prenez 5 000 cette année, vous pouvez reporter votre 5 000 d'investissement que vous avez fait cette année à 2019. Alors donc, il n'y a pas de perte de ce côté-là. Vous allez avoir encore vos droits de REER qui seront diminués à 20 000 $ plus le 18% que j'expliquais tantôt. Mais vous allez avoir en banque déjà 5 000 $ d'investis dans votre REER et vous pourrez le déduire l'année prochaine. Alors, je pense que c'est la réponse en deux temps qu'on devait donner à Steve Roby là-dessus.
OK. Et enfin, il y a Sylvie qui te pose une question. Ça doit comporter quand même des particularités parce que
oui,
Sylvie
beaucoup.
Et son conjoint sont non-résidents du Canada depuis 2014. Et là, cherche à avoir des renseignements sur les impôts qu'elle a payés en 2014, 2015, 2016, 2017.
Oui, effectivement. Son conjoint qui reçoit une pension de la Régie des rentes, ce qu'elle dit pas, par exemple, là-dedans, j'ai envoyé un petit courriel, elle m'a pas répondu. Est-ce qu'il y a des revenus autres? Parce que pour tous les revenus canadiens, on doit les déclarer au Canada. On n'a pas le choix. Que ce soit votre Régie des rentes, sécurité de vieillesse, prestation de retraite, allocation de retraite, prestation de décès. Est-ce que vous avez retiré de vos REER? Est-ce que vous avez retiré de vos FER? Donc, c'est bien important. Et est-ce que vous avez eu un revenu d'emploi malgré tout au cours de l'année 2018 au Canada. Là, on parle du fameux formulaire NR5. Qu'est-ce que c'est ça exactement, le formulaire NR5?
C'est pour demander... moi qui vais répondre à ça.
Ouais, c'est de demander la permission à Revenu Canada de pouvoir obtenir une réduction d'impôt pour les non-résidents. Parce qu'habituellement, la loi dit 25 %. Mais ça va dépendre, ça aussi, des ententes fiscales qui existent entre le Canada et d'autres pays. J'ai fait juste un petit calcul de 8 000 $, c'est les résidentes ou s'ils sont résidents de la République dominicaine. Ça peut arriver, ça? Hein? On est à la retraite, on a décidé de s'acheter un petit pied-à-terre en République dominicaine, rester là tout le temps et devenir non-résident. Il faudra quand même payer 1 440 $ d'impôts sur 8 000 $. Alors, ouais, c'est pour ça que le fameux NR5 existe, là, et demander une réduction d'impôts. Donc, un impôt à payer, comme si on était résident canadien. Effectivement, si on obtient la permission de Revenu Canada à 8 000 $ avec la déduction, il n'y en aurait pas. Mais comme on est non-résident, là, c'est une autre paire de manches. Il va falloir payer ses impôts. Alors donc, informez-vous comme il faut. Ça va dépendre aussi de votre pays de résidence, parce que chacun des pays, là, j'ai fait des petits calculs rapides, ça varie entre 18 et 25 %. C'est pour ça que le NR5 existe.
OK. Voilà. OK. Puis en terminant, François, oui. Tu poses une question qui est franchement, c'est vraiment difficile de répondre à ça parce que ça comporte, évidemment, chaque situation est unique, là. Mais oui. La question que tu poses, c'est, seriez-vous prêt à endosser le prêt d'un parent ou d'un ami? Oui, tu as raison de dire que c'est un pensez-y bien. Puis déjà, d'emblée, puis tu me diras ce que tu en penses, mais d'emblée, moi, je fais une grosse différence entre un parent et un ami. J'ai-tu raison?
Oui, effectivement. Puis même un parent, on
s'entend, ça peut quand même faire du trouble, mais un parent, c'est un parent. Un ami, me semble que tu t'ouvres la porte.
C'est parce que là, le problème, là, c'est qu'en cas de non-paiement, là, le problème, que ce soit un parent ou un ami, c'est vous qui êtes responsable du prêt. Alors, c'est vous qui allez assumer seul le remboursement, donc c'est majeur. Vous êtes responsable du prêt à 100 %. Ouais. Pour les retards, pour les mensualités, puis le total de la dette, ça va venir affecter votre capacité d'emprunt également. Alors, si vous endossez, c'est comme si vous aviez contacté le prêt. Donc, ça va venir affecter votre cote de crédit. La financière qui pourrait donc vous refuser un prêt ou vous imposer un taux d'intérêt plus élevé si jamais votre capacité d'emprunt est rendue presque à capacité maximale, malgré que c'est pas vous qui avez l'emprunt, là. Et ça pourrait aussi venir entacher votre dossier de crédit. Ça pourrait même aller jusqu'à la saisie de vos biens, de vos revenus, si jamais la personne à qui vous avez donné justement cet endossement auprès d'une institution financière, ben c'est vous qui allez comporter donc ces problèmes-là. Puis n'oubliez pas une chose. Par exemple, vous dites, je vais endosser le prêt de mon fils. Le fils rembourse pas le prêt automobile, par exemple.
Ouais, ouais.
L'auto ne vous appartient pas, elle appartient toujours à votre fils. Mais c'est par contre, c'est vous qui êtes responsable du prêt.
Ouais,
alors,
ça.
Si vous ne payez pas, ben là, lui, le fils perdra pas son véhicule automobile. C'est vous qui êtes obligé de rembourser le prêt. C'est la même chose pour les amis. Puis tous les frais, puis les déchéances du terme. Quand on parle de déchéance du terme au bénéfice, là, ça veut dire que si l'emprunteur manque à une de ses obligations, le créancier pourrait exiger la totalité du montant d'un seul coup. C'est un passé-y bien. Alors, pourquoi qu'on exige un co-signataire à cette personne-là? Ça serait la première question à vous poser. Analysez ses besoins et votre propre situation financière. Faites pas ça à l'aveuglette, là. Et l'impact d'un défaut de paiement sur votre relation à l'emprunteur, ça aussi, c'est ça. Est-ce que la personne manque un paiement pour une raison que vous jugez futile, par exemple? Ça va pas venir entacher justement votre relation avec cette personne-là. Est-ce que vous essayez justement de sauver une relation en acceptant de l'endosser? Ça, c'est une autre question. Si la réponse est oui à ces deux questions-là, les deux dernières que je viens de vous poser, moi, j'y penserais deux fois avant de dire oui et d'apposer votre signature au bas de l'emprunt. Parce qu'on sauve pas une amitié et on ne sauve pas justement une relation père-fils ou encore une relation cousin et cousin-cousine là, strictement en endossant. Vous allez peut-être paraître sans cœur, mais vous allez peut-être éviter beaucoup plus de troubles.
Ben, c'est ça.
Ouais,
voilà. Alors, si vous avez des questions d'ordre économique ou financier à poser à François Gagnon, chroniqueur économique ici au FM 93 et pour le réseau Cogeco, c'est par courriel au françois.gagnon@985fm.ca. françois.gagnon@commercial985fm.ca. Merci, François.
T'es fin. Merci beaucoup.